Voilà, j'aimerais vous inviter à la prière. Merci notre Dieu pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes d'ouvrir ta parole ensemble. Merci de nous l'avoir donnée et merci parce que par elle tu nous instruis, tu nous corriges, tu nous enseignes et tu nous permets de grandir en toi, de mieux te connaître. Et nous voulons, Seigneur, te prier de disposer nos cœurs encore en ce jour pour ce temps de réflexion sur ta parole. Que tu puisses parler à nos cœurs. Nous voulons aussi te remettre ces enfants qui viennent de monter, que tu leur donnes un cœur bien disposé aussi à écouter ta parole. Et nous te remettons les monitrices, que tu leur donnes tout ce dont elles ont besoin pour transmettre ta parole et que cette parole puisse atteindre le cœur de ces enfants et porter du fruit. Donc, conduis-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Donc nous voyons quelques faits de la vie de notre Seigneur Jésus lorsqu'il était sur la terre. Et c'est vrai qu'après avoir passé 40 jours dans le désert où il a été tenté, Luc nous dit que Jésus... revêtu du Saint-Esprit, donc il va commencer son ministère d'enseignement, prêchant l'évangile de Dieu. Et dans Marc, il est dit qu'il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Luc souligne à plusieurs reprises quel était le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il enseignait dans les synagogues. Dans Luc chapitre 4, on a vu qu'il était retourné donc à Nazareth, dans la ville où il a grandi. Et après avoir annoncé que, quand sa personne, le texte d'Ésaïe chapitre 61 avait été accompli, et à cause de l'endurcissement du cœur de ses auditeurs, ces personnes ont chassé le Seigneur Jésus-Christ et donc il a dû partir. Et comme il dit, nul prophète n'est bien accueilli dans son pays, dans sa patrie. Et donc il a enseigné à Capernaum, il est dit, toujours au chapitre 4, il a délivré un homme qui était possédé d'un esprit impur. Et après, il est allé dans la ville où habitaient Pierre et André, Bethsaïda. Et là, il a guéri la belle-mère de Pierre qui souffrait d'une forte fièvre. Et plusieurs semaines avant cela, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà rencontré Pierre lorsque son frère André lui a dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et c'est le frère André qui était un disciple de Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste, voyant Jésus, a dit « Voici, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Alors André a suivi Jésus-Christ et il a amené son frère Pierre voir le Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui a dit « Alors tu es Simon et tu seras appelé Pierre. » Alors que là, c'était la première rencontre de Jésus avec Pierre. Et cette première rencontre a permis à Pierre de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et là, donc Jésus-Christ connaissait Pierre parce qu'il était allé chez sa belle-mère. Et il avait déjà commencé cette relation avec lui. Et là, dans ce texte de Luc, chapitre 5, nous voyons que le Seigneur Jésus va appeler Pierre et les autres, André, Jacques et Jean, à un ministère particulier, un ministère à plein temps. Alors, j'aimerais vous inviter à lire ce passage avec moi, qui se trouve dans Luc, chapitre 5. Nous lisons les versets 1 à 11. Alors Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. J'ai intitulé ce message « Un cœur disposé pour servir ». Dans ce texte, j'ai pu voir, j'aimerais souligner en tout cas, plusieurs traits caractéristiques du cœur de Pierre. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de Pierre, on pense tout de suite à Pierre qui a renié le Seigneur. On pense tout de suite à ces aspects un peu négatifs. Mais ce texte nous montre que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui connaissait le cœur de Pierre, voyait déjà en lui des qualités qui vont être nécessaires pour accomplir l'œuvre à laquelle il l'avait appelé. Et bien qu'il savait aussi les choses en Pierre qui mériteraient d'être transformées, d'être changées. Et en cela, ce texte nous encourage à voir les qualités que Dieu nous a données et ne pas seulement nous arrêter peut-être aux défauts, mais que le Seigneur, il voit les qualités et en fonction de ces qualités, il nous dit, mais arrête de voir tout ce qui est peut-être négatif, mais vois aussi les bonnes choses et avec ces bonnes choses, sache ce que je peux faire avec toi, beaucoup. Dans ce passage de Luc, au chapitre 5, Pierre, le disciple de Jésus, qui est déjà disciple de Jésus, parce que, comme Jean nous le dit au chapitre 1, il avait déjà cette rencontre avec le Seigneur et cette première rencontre où il a entendu que Jésus est le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a vu Jésus-Christ qui le connaissait particulièrement. Quand il lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », qui signifie Pierre. Le Seigneur le connaissait personnellement. Et il a entendu que Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui le Messie qui était attendu. Il a mis donc sa confiance en Dieu. Il a mis sa confiance en Jésus. Et là, dans ce texte, j'aimerais souligner plusieurs qualités de cet homme, Pierre. Déjà, dans les trois premiers versets, je voudrais souligner sa générosité. Il laisse le Seigneur utiliser sa barque pour qu'il puisse enseigner la foule. Il a travaillé toute la nuit. Et là, il est en train de réparer les filets pour la nuit suivante. Donc, on peut imaginer, donc, c'est pour le pêcheur, la barque, c'est vraiment l'outil de travail. C'est vraiment le moyen qui est plus important aussi pour eux. Et donc, je dirais, pas question de faire n'importe quoi avec. Mais là, on voit que Jésus qui arrive, qui voit, il voit la barque de Pierre et il monte dessus et il demande à Pierre de s'éloigner un peu de terre. Et Pierre ne dit rien. Il laisse au Seigneur le soin d'utiliser sa barque pour que le Seigneur puisse enseigner à cette foule. Il aurait pu dire au Seigneur, non, c'est ma barque, c'est mon outil de travail. Elle n'est pas faite pour que tu puisses te tenir là et parler aux gens. Non, non, il n'a pas été comme ça. Il n'a pas été égoïste. Il laisse à la disposition de son Seigneur sa barque. Et il fait preuve de générosité. Il est altruiste et il laisse le Seigneur utiliser ce qui est à lui. L'autre chose que j'aimerais souligner, que c'était un homme travailleur, obéissant, humble. Dans ces versets 4 à 5, le Seigneur lui dit, et sans lui demander s'il était disponible ou pas, hein, le Seigneur lui dit, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Donc lui, il était en train de réparer ses filets, et là, le Seigneur lui dit, voilà, maintenant, avance en pleine eau. Pierre était fatigué, on pouvait l'imaginer, après toute une nuit de travail. Il est peut-être découragé aussi, à cause de cette nuit, mais aussi, surtout, parce qu'il n'avait rien pris. Très décourageant. Il a travaillé toute la nuit et il n'y avait pas grand-chose. Il aurait pu dire là aussi au Seigneur, je suis fatigué, en plus je dois réparer les filets, je dois être prêt pour ce soir, il n'y a pas de poisson, c'est pas la peine. Il aurait pu dire aussi au Seigneur, maître, je suis un professionnel, toi tu connais pas le métier, moi je sais que c'est pas le moment d'aller au large pour pêcher quoi que ce soit. Moi, je connais mon travail. Et là, il ne le dit pas au Seigneur, cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, c'est vrai. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Dans la version Semeur, il est dit, mais puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. Il jette son filet comme le Seigneur lui a dit et il prend une grande quantité de poissons. Et là, ce texte nous montre aussi que c'était un homme qui se soumettait aussi à l'autorité de Jésus. Lorsque Jésus monte dans la barque pour parler à la foule, le Seigneur qui interrompt son travail, le Seigneur qui lui dit, allez, on va au large. Le Seigneur montre là toute son autorité. Il ne demande pas son autorisation à Pierre. Mais Pierre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'y soumet, il obéit à ce que le maître lui dit de faire. Ce que j'aimerais souligner aussi dans le verset 7, c'est que c'est quelqu'un qui acceptait l'aide des autres. Donc le texte nous dit qu'il avait des associés, Jacques et Jean. Son frère André aussi était avec lui, donc il ne travaillait pas seul. Et après cette prise, cette pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses compagnons. Venez m'aider, venez nous aider. Il sait très bien que tout seul, il ne pourra pas ramener les filets. Il avait besoin de l'aide des autres. Et il accepte l'aide que pouvaient leur apporter ses compagnons, le fils de Zébédée, Jacques et Jean. Le verset 8 montre aussi qu'il fait preuve, là encore, dans son humilité, il reconnaît son indignité devant le Seigneur. Il tombe aux genoux de Jésus et lui dit « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Ésaïe a eu la même attitude lorsqu'il a eu cette vision du Seigneur sur le trône et les séraphins qui disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées ». Et donc, lorsqu'il a entendu ça, Ésaïe dit « Malheur à moi, parce que je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Il dit « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Malheur à moi !» Pierre, c'est l'attitude qu'il a aussi devant le Seigneur. Il voit le Seigneur dans sa puissance. Et il dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Devant le Seigneur, on se voit sale, on se voit pécheur. Et Seigneur, non, on se met à genoux devant lui. Et Pierre, là, montre qu'il s'humilie devant le Seigneur. Il est aussi un homme désintéressé. Au verset 11, on voit qu'il ramène sa barque à terre. Il a une pêche miraculeuse, c'est la pêche du siècle, on va dire. Il aurait pu dire, voilà, hop, on vend tout ça, comme ça on se fait de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la barque et il laisse tout. Et il part avec Jésus. Il laisse tout. Il laisse cette fortune qu'il aurait pu récupérer grâce à cette pêche miraculeuse. Mais il laisse ça et il suit Jésus. Le Seigneur Jésus savait donc tout cela de Pierre. Il connaissait déjà toutes ces traits caractéristiques de sa personnalité, les qualités de son cœur. Il savait que cet homme avait un cœur disposé pour le servir. Et c'est pour cela que, dès le début, il changea son nom en lui disant « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Pierre a répondu à l'appel du Seigneur parce qu'il a vu en la personne de Jésus la puissance de Dieu à l'œuvre à plusieurs reprises. Il a vu la guérison de sa belle-mère, il a vu toutes ces personnes qui venaient là chez lui, et que Jésus guérissait. Il a vu Jésus délivrer de personnes qui étaient possédées d'esprits impurs, des personnes qui étaient malades, toutes sortes de maladies, le Seigneur leur apportait la guérison. Et avec cette pêche miraculeuse, il voit là encore la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et il confesse que Jésus est son Seigneur. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Nous qui avons reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, serions-nous prêts à répondre à l'appel du Seigneur pour un service particulier qu'il voudrait nous confier pour l'avancement de son œuvre ici-bas? Serions-nous prêts à faire comme Pierre, tout quitter et partir? Dans quelle disposition de cœur sommes-nous? Notre cœur est-il disposé à servir celui qui a donné sa vie pour nous, comme nous l'avons fait, nous l'avons entendu ce matin? Pierre, c'était un homme comme vous et moi. C'était pas un super-héros venu d'une autre planète. Donc notre cœur est-il disposé à servir celui qui a donné sa vie pour nous? Chacun, vous savez, reçoit de Dieu un appel particulier pour un service particulier. Dieu ne demande pas à tout le monde, voilà, quitte ton travail et va à l'autre bout du monde. Non, chacun tient de Dieu un appel particulier. Mais quel que soit notre appel, le service que nous sommes appelés à faire a une vocation commune. C'est la gloire de Dieu, l'avancement de son œuvre ici-bas et que son règne vienne. Quelle que soit la tâche que Dieu nous a confiée, quel que soit le service que nous accomplissons, c'est pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son œuvre, pour que son règne vienne. Sommes-nous conscients de cela? Et le Seigneur, lui, dans un premier temps, ce qu'il voit, c'est la disposition de notre cœur. Pierre ne savait pas ce qu'il allait faire par la suite. Dieu le savait. Mais le Seigneur a vu en cet homme qu'il va appeler Pierre, le roc. Après, il va lui dire, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. C'est parce qu'il avait vu au départ que cet homme avait ce cœur bien disposé pour le servir. Et j'aimerais nous encourager à nous mettre au service de notre Seigneur et à répondre à son appel. Quel que soit l'appel que le Seigneur veut vous adresser, ce que nous voyons dans ce texte est valable pour nous tous. Nous mettre au service de notre Seigneur en mettant à son service notre barque. Le besoin de Jésus était là manifeste. Le Seigneur Jésus avait besoin de s'adresser à cette foule qui se pressait là autour de lui pour entendre la parole. C'est ce qu'il est dit dans les trois premiers versets. Il y avait cette foule qui était là, qui se pressait autour de lui pour entendre la parole. Et le Seigneur avait besoin de s'éloigner d'eux et pour pouvoir leur parler. Donc il avait besoin d'une barque. Il avait besoin d'une barque. Et il regarde là autour de lui et il voit la barque, les deux barques étaient là et il va aller monter sur la barque de Pierre. Est-ce qu'il va rechercher les propriétaires, dire c'est à qui cette barque, à qui elle appartient? Est-ce que vous voulez bien accepter de me passer votre barque et que je puisse monter dessus pour que je puisse parler à la foule? Jésus n'a pas fait tout ça. Il est monté sur l'une des barques, précisément sur celle de Pierre, et c'est pas pour rien. Parce qu'il avait en vue de s'adresser particulièrement à Pierre. Et parce qu'il est Dieu, il monte sur la barque de Pierre parce que cette barque qui est à Pierre mais appartient à Dieu parce que tout est à Dieu. Et donc, et Pierre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met tout simplement au service de son Seigneur sa barque. Il reconnaît que cette barque, ce n'est pas la sienne, c'est la barque de son Seigneur. Et il ne vient pas dire à son Seigneur, non, c'est ma barque, c'est à moi de faire ce que je veux avec. Et le Seigneur donc a utilisé la barque de Pierre pour enseigner cette foule qui voulait entendre la parole de Dieu. Et si Pierre n'avait pas accepté que Jésus utilise sa barque, cette foule n'aurait pas entendu la parole. Mais il ne pouvait pas ne pas accepter que le Seigneur utilise sa barque. Parce que quand on est disciple de Jésus, on ne peut pas accepter, on ne peut pas ne pas accepter que Jésus utilise notre barque. Sinon, on n'est pas disciple de Jésus-Christ. Donc cette barque, c'est ce que nous avons propre. Cette barque, c'est nous-mêmes, c'est notre vie, c'est notre énergie, c'est notre temps. Cette barque, le Seigneur nous dit, est-ce que tu veux la mettre à ma disposition? L'autre chose, je vais lire ce texte que j'avais prévu, Luc chapitre 14, où Jésus donne les conditions à ceux qui veulent être ses disciples. Il leur rappelle et leur dit qu'il doit avoir la priorité sur tout si on veut être son disciple. Donc Luc chapitre 14 verset 25, il est dit: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant: cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et c'est ça le problème, c'est que parfois, il y a des gens, ils ne viennent pas à Jésus, au fait, parce qu'ils ont compris qu'il faudrait qu'ils laissent à Jésus l'usage, l'autorité sur leur barque. Et ils veulent garder la même mise. Et ils refusent d'accepter de se soumettre à Jésus-Christ parce qu'ils veulent être leur propriétaire. Et c'est le Seigneur qui est le propriétaire de tout, de toute manière. Et si on veut être disciple de Jésus, il faut accepter de mettre notre barque à sa disposition. Sinon, on n'est pas disciple de Jésus-Christ. L'autre chose, il faut obéir à son commandement. Dans les versets 4 à 9, c'est ce que Pierre il fait. Le Seigneur s'adresse personnellement à lui et lui dit: « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et comme je le disais, au lieu de protester, au lieu de dire qu'il était fatigué, qu'est-ce qu'il va faire? Pierre va se soumettre à l'ordre du Seigneur et faire ce que le Seigneur va lui dire, malgré sa perplexité. Hein, il dit: mais nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc il a mis sa foi en action. Il a traduit par des actes cette foi. Il a jeté le filet. C'est ce qui est important. L'ayant jeté, il aurait pu dire, maintenant c'est pas la peine de le faire. Non, il montre sa foi lorsqu'il jette ce filet, parce que le Seigneur lui demande. La foi, Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors que si on dit qu'on croit et qu'on ne fait rien, ça sert à rien. Et là, le Seigneur, Pierre nous montre qu'il avait foi dans les paroles de Jésus, et il obéit. Il jette le filet comme le Seigneur lui a demandé de le faire. Et Dieu va bénir cet acte-là et il aura cette grande quantité de poissons. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que nous pouvons mettre au service nous mettre au service du Seigneur, répondre à son appel en acceptant la nouvelle orientation qu'il veut donner à notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ veut donner une nouvelle direction à la vie de cet homme. Il était là, il était pécheur, voilà, c'était sa vie, et c'était un peu sa routine. Et en devenant disciple de Jésus, le Seigneur lui montre là qu'il veut donner une nouvelle orientation à sa vie, il veut donner une nouvelle perspective à sa vie, à son futur. Et si on veut avancer, si on veut avoir une vie différente, si on veut changer, il faut accepter de se mettre au service du Seigneur. Sinon, on est dans une routine. Et là, c'est ce qui va se passer pour Pierre. Le Seigneur lui dit, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Donc, Pierre, il a reconnu qu'il avait besoin du Seigneur. Il avait reconnu son péché. Il avait reconnu sa misère. Il avait reconnu qu'il était indigne d'être là et que le Seigneur lui fasse grâce. Et le Seigneur lui dit maintenant, c'est pas la peine d'avoir la crainte, ne crains point. Tu seras maintenant pécheur d'homme. À partir de maintenant, tu seras avec moi. À partir de maintenant, tu seras avec moi et je serai avec toi. Donc ne crains point. Je vais te préparer pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. À partir de maintenant, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour les poissons, parce que moi-même, je vais pouvoir à tes besoins. À partir de maintenant, tu n'as plus à craindre aucun danger en allant pêcher, parce que il y avait des risques aussi. Pourquoi? Parce que moi-même, je serai ta sécurité. Et le Seigneur va donner cette nouvelle perspective à Pierre, qui va laisser ce qu'il faisait pour suivre Jésus-Christ. Dans Ésaïe, chapitre 41, alors, Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset 8, le Seigneur dit à Pierre, ne crains point, tout comme l'Éternel disait à son peuple Israël de ne pas avoir de crainte aussi. Dans Ésaïe 41, verset 8, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien et périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien et ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « ne crains rien ». Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. C'est ce que le Seigneur dit à Pierre, et c'est ce qu'il nous dit aussi à tous qui disons être disciples de Jésus-Christ. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Au chapitre 43, pareil, il dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Voilà. Donc, lorsqu'on fait le choix de se mettre au service du Seigneur, lorsqu'on fait le choix de lui dire, comme Pierre, oui, je suis un homme pécheur, mais on reconnaît notre indignité, mais on dit au Seigneur, voilà, ce que j'ai, je te le donne. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12 de nous offrir nous-mêmes à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alors nous nous offrons à Dieu et nous lui disons, eh bien, Seigneur, sers-toi de moi. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Il y a une chanson qui dit ça. Voilà. Et voilà. Et le Seigneur nous utilise. Il nous donne une nouvelle orientation à notre vie. Il nous conduit et il nous amène là où nous imaginons même pas. Et il nous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide et que nous comprenons que être disciple de Jésus-Christ, c'est cela. C'est mettre à son service ce que nous avons, c'est obéir à ses commandements, mais c'est aussi accepter et voir qu'il a aussi une nouvelle orientation aussi pour notre vie. À lui seul soit la gloire. Amen.